Point de vue. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à notre émission Point de vue sur Canal M. Bonjour madame Felice.
Bonjour monsieur Poulin.
Vous allez bien?
Très bien vous-même.
Vous allez... Oui, ça va très très bien. Cette émission est en collaboration avec la Fondation En Vue et l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et nous avons bien entendu deux invités encore aujourd'hui.
Oui, notre première invitée, c'est Mme Marie-Hélène Normandeau, qui est directrice générale de Montréal Relève, qui supporte le programme de Vision Carrière. Et Mme Normandeau sera avec nous
au téléphone. Oui, tout à l'heure.
Voilà. Et nous avons en studio avec nous M. Kader Diaby. Il est étudiant à Polytechnique Montréal et il est également stagiaire dans le cadre de Vision Carrière en ingénierie. Bonjour.
Bonjour à vous deux.
Oui, bonjour.
D'abord, Kader, vous étudiez actuellement en ingénierie à la Polytechnique. Donc,
oui.
Vous êtes en première année?
Non, je suis en quatrième année.
En quatrième année.
Oui.
Et vous étudiez à Polytechnique dans quelle discipline en ingénierie? Mais est-ce que vous avez une spécialité en particulier?
Non, pour le moment, je n'ai pas de spécialité, mais j'étends vers le développement durable.
Ah, en développement durable.
Oui.
Et pourquoi vous avez choisi cette discipline?
Bon, je dirais que je suis quelqu'un qui est plus soucieux de l'environnement, de tout ce qui est efficacité énergétique. Donc, c'est un domaine vraiment qui m'intéresse beaucoup. Parce que aussi par le passé, quand j'étais petit, j'étais très, très intéressé par la science et par la créativité. Donc, le domaine d'ingénierie englobe tous ces aspects-là. Donc, c'est ce qui me permet aussi de...
Alors, Kader, vous êtes en basse vision.
Oui, c'est ça.
Donc, ça a été quand même toute une adaptation, j'imagine, à l'université.
Oui, depuis plusieurs années.
Et qu'est-ce que ça a eu comme... à quoi vous avez eu à vous adapter en particulier? Comment vous avez traversé ces années pour avoir le succès que vous avez?
Je dirais qu'il faut avoir beaucoup de persévérance. D'abord, avant de venir au cégep, quand j'étais au cégep, je faisais des cours sans vraiment voir au tableau. Donc, j'avais comme des collègues qui prenaient des notes de cours pour moi. Donc, je suis arrivé à l'université, puis j'ai eu des nouvelles adaptations pour permettre de voir au tableau, pour être plus autonome. Et à Polytechnique, il y a les services aux étudiants en situation de handicap qui est là aussi, qui donne aussi des moyens aux étudiants de pouvoir réussir le cours. Donc, je ne suis pas tout seul, il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'encouragent et puis qui m'aident aussi à réussir. Donc,
J'imagine que vous avez également des outils particuliers pour les notes de cours ou...
Oui, oui, j'ai plusieurs appareils de lecture, c'est-à-dire ce qu'on appelle une télévisionneuse. Et puis ça, c'est pour lire mes documents, papier par exemple. C'est très portatif. Et j'ai des logiciels sur ordinateur, Zoom Text par exemple, qui permettent de travailler, de voir tout ce qui est écrit à l'écran. Et j'ai un autre appareil aussi qu'on appelle un Smart View, qui me permet de voir au tableau. Qui est relié à mon ordinateur. C'est une caméra, en fait, qui est liée à un ordinateur que je peux suivre directement le professeur. Je peux zoomer au tableau et voir tout ce que le professeur fait au tableau et puis comme ça.
Et là, vous avez participé au programme Vision Carrière, donc un stage en entreprise.
Oui.
Et c'est dans quel secteur en particulier? Est-ce que c'est dans votre domaine direct en développement durable ou...
Oh, je n'avais jamais exploré, en fait, le domaine que l'entreprise... le champ d'expertise de l'entreprise. Donc, en général, est-ce que je peux dire le nom de l'entreprise?
Ça va. Oui, absolument.
OK.
Absolument.
D'accord. Donc, je ne sais pas, Jean Morel, ils travaillent plus dans l'efficacité énergétique, c'est-à-dire l'économie d'énergie dans les bâtiments.
OK.
Donc, ils font la conception des bâtiments, en fait. OK. Donc, c'est un domaine que je n'avais pas forcément exploré, mais que j'avais envie de le faire.
Et qu'est-ce que vous faites exactement dans le cadre de ce stage?
Mais je m'assure que, durant la conception des nouveaux bâtiments qui vont construire, que l'efficacité énergétique du bâtiment, c'est-à-dire la consommation électrique de gaz et tout ce qu'il y a autour, est efficient. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment une bonne capacité de on n'a pas une trop de dépenses énergétiques et que ça respecte les normes environnementales et tous les codes, tous les codes dans le domaine du bâtiment.
Ça a été une expérience unique et une opportunité pour vous que Vision Carrière vous a offert de faire ce stage.
Oui, c'est dernièrement, oui. Parce que j'avais pas encore fait de stage, j'avais pas encore travaillé, j'avais pas eu d'expérience en entreprise. Mm-hmm. Et le fait que Vision,
c'est Vision... Vision Carrière.
Le fait que Vision Carrière m'offre cette opportunité m'a permis d'avoir une certaine confiance sur mes capacités et aussi d'avoir moins de stress sur le métier d'ingénieur en fait.
Et comment a été l'accueil? Vous avez parlé de la firme tout à l'heure, c'est Morel, c'est ça?
Pajot Morel, oui, c'est ça.
Et comment a été l'accueil avec ces gens? Comment ça s'est passé?
Oui, mais c'était très bien parce que ce sont des gens très, très ouverts. Et dès que je suis arrivé, j'ai comme toute une délégation qui m'a reçu.
Et ils vous ont adopté.
Vous avez été reçu tapis rouge.
Oui, j'ai été reçu par le président et puis la ressource humaine et puis... Et j'ai été présenté à tous les membres de l'équipe de l'éco-énergie. Donc, tout ça, avec les personnes avec qui j'ai travaillé durant ce stage. Donc, ils étaient enthousiastes de m'avoir et puis de participer à l'expérience aussi.
Et comment ça s'est passé, le choix de votre stage? Donc, est-ce que Vision Carrière vous a accompagné également pour faire le choix?
Oui, ils se sont assurés un minimum que ça convienne au moins à... À mon champ de carrière. Donc, c'est en fonction de cela qu'ils ont fait les démarches pour des entreprises pour avoir ce stage.
Il va y avoir une suite, je pense. Hein?
Ah oui, il a déjà eu une suite parce que j'ai fait un stage de longue durée là-bas, de 4 mois.
Vous avez fait un stage de 4 mois?
Oui.
Ah oui?
Et puis cet été, je travaille chez eux durant tout l'été.
Donc, ils vous ont embauché?
Oui, c'est ça.
Et dans le stage de 4 mois, au fond, est-ce qu'il y a eu des expériences en particulier qui vous ont marqué?
Réfléchissons un peu.
J'imagine qu'en 4 mois, comment ça se passait avec le personnel, justement? Le personnel était conscient que vous vivez avec une déficience visuelle partielle?
Oui.
Quelle était leur réaction?
Ils ont été très ouverts parce que mm-hmm. j'ai pas remarqué que j'étais traité différemment. Ils sont allés à mon rythme aussi parce que j'ai appris de nouvelles connaissances et en plus des nouveaux outils que je devais apprendre. Donc ils m'ont guidé avec beaucoup de patience et quand je suis là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une certaine fierté de m'avoir enseigné, de m'avoir intégré dans leur entreprise, tout ça.
Ça doit donner beaucoup de confiance en soi.
Ah oui, c'est sûr. parce que j'avais au moins une image du métier. Avant de pouvoir travailler en entreprise, j'avais quand même une image du métier qui était peut-être difficile parce que, à cause de la théorie que je voyais en cours.
Absolument, oui.
Donc, sur le fait de travailler sur des vrais projets, de travailler du concret, ça m'a permis d'avoir une certaine grande confiance en moi aussi.
Donc, qu'est-ce que vous allez faire cet été exactement comme travail?
Ah, mais je continue toujours la simulation énergétique des bâtiments en construction.
Donc, toujours dans ce domaine-là?
Toujours dans ce domaine-là. C'est très intéressant.
vous avez parlé tout à l'heure de l'accueil des gens. Est-ce qu'il y a des expériences particulières que vous avez vécues qui étaient... qui pouvait être à la limite très drôle, mais enfin, ou qui était un peu particulière.
Particulière.
Parce qu'en 4 mois, j'imagine que vous en avez vu des choses.
Des choses, mais c'était des choses vraiment très agréables, je dirais. Parce qu'il y avait quand même des employés, des collègues qui étaient très intéressés à manipuler mes outils d'adaptation, c'est-à-dire mes zooms, mes appareils. C'était très curieux, donc très curieux de savoir comment ça fonctionne. Regarde tout ça. Je trouve ça très intéressant.
Bravo. C'est vraiment très, très extraordinaire dans votre cas parce que normalement, les stages au niveau de Vision Carrière, c'est des stages d'une semaine.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez fait 4 mois? Ils vous ont oublié ou...
Non, c'est pas cela. En fait, j'ai...
On a oublié un stagiaire.
En fait, comment ça s'est passé? J'ai fait le stage d'une semaine.
Oui.
D'abord. Et après ce stage... L'entreprise m'a proposé un stage de 4 mois.
C'est une chance inouïe.
Ouais, on peut dire ça. Parce que au baccalauréat, il faut faire un stage obligatoire
Oui.
pour compléter en fait son programme.
Mmh.
Et je trouvais que j'étais dans une période où je devais chercher un stage de longue durée en fait. Et après ces 5 jours-là, vu l'expérience qui était concluante, et puis ils avaient un besoin, et donc ils m'ont proposé un stage de 4 mois.
Vous êtes en quatrième année.
Oui.
Est-ce que c'est la dernière année maintenant avant de... Comment ça
Non, mais
fonctionne
j'ai
pour
fait, je...
devenir
Non,
ingénieur?
mais je dois finir l'année prochaine parce que j'ai étendu mon bac sur 5 années. Donc,
Et après ces 5 années, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un
Mais
autre
après, non,
stage à
je
faire
travaille.
ou...
Après mon bac, je cherche un travail, mais j'espère pouvoir travailler chez eux si m'offre l'opportunité.
Donc, ça vous a vraiment aidé à avoir une vision de l'avenir,
Oui,
à
c'est
prendre
ça.
confiance du fait que le travail que vous faites, c'est tout à fait adapté à votre condition
Oui, c'est ça.
et qu'au fond, il n'y en a pas d'obstacle.
Oui, c'est vrai, parce que je travaille comme tout le monde et puis ça se passe très bien.
Vous vivez votre quotidien comme n'importe qui,
Oui, comme n'importe
comme
qui,
tout le
hein,
monde.
je quitte le matin le travail et je quitte le matin chez moi et puis je prends le bus et le métro et puis je vais au travail et puis je reviens le soir comme tout le monde.
On va faire une petite pause et on est de retour avec un membre du personnel de l'Institut. On rencontre Madame Nathalie Thibault. Pour parler de l'Institut Nazareth et Louis Braille, nous recevons aujourd'hui Mme Nathalie Thibault, psycho-éducatrice au secteur enfance-jeunesse de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Mme Thibault, bonjour.
Bonjour.
On sait qu'à l'intérieur de l'Institut, il y a plusieurs secteurs. Il y a aînés, adultes, mais il y a un secteur enfance-jeunesse. Et je crois que bon an, mal an, vous desservez à peu près 500 enfants autour de ça, hein, à
Oui,
peu
c'est bien
près.
ça. C'est bien ça.
Et ça se maintient autour de ce nombre-là,
Oui.
d'année en année?
Oui, des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus, mais c'est pas mal toujours dans les mêmes nombres.
On ne peut pas dire que la clientèle est en croissance dans ce secteur-là.
Non, aux adultes, c'est en croissance, mais nous, c'est pas en croissance. Ça demeure sensiblement toujours le même nombre, donc c'est stable.
Et quelles sont principalement les pathologies?
C'est très varié.
Mm-hmm.
Je peux pas vraiment les nommer parce qu'ils sont, c'est très varié
C'est très,
d'un
très
Ah oui,
varié.
c'est vraiment très varié d'un enfant à l'autre.
Donc, c'est souvent de la basse vision ou ça peut être une cécité totale, mais c'est très, très varié. Il y a toutes sortes de
De
pathologies.
pathologie, oui.
J'imagine que l'approche de la réadaptation avec les enfants est complètement différente de celle des adultes.
Oui, parce que les enfants sont en développement. Donc, du point de vue d'un enfant, il est tout petit. On l'a dès sa naissance jusqu'à l'âge de 24 ans. Donc, il est en développement tout au long de son processus de réadaptation. Et la clientèle enfance-jeunesse, c'est aussi une clientèle qui vient avec les parents, parce que les parents sont très impliqués dans le développement de leurs enfants. Et nous avons plusieurs partenaires également.
J'imagine qu'il doit y avoir des inquiétudes chez les parents.
Ah oui, il y a beaucoup d'inquiétudes chez les parents.
Et vous avez à composer aussi avec cette inquiétude.
Oui, on a beaucoup à rassurer les parents, leur dire, les rassurer, puis leur faire voir aussi des fois ils le voient d'eux-mêmes, mais des fois leur faire voir toutes les capacités que les jeunes ont aussi également et qui vont être capables de participer socialement éventuellement à la vie.
Donc, quand vous me parlez de capacités, c'est que non seulement vous développez ces capacités, mais vous devez aussi les diagnostiquer?
Les incapacités?
Oui, chez les enfants. Où le diagnostic est fait de toute façon, il a été fait le diagnostic, mais
oui.
Vous êtes en mesure de pouvoir développer ces compétences-là ou enfin d'en arriver à faire certaines corrections peut-être? Je ne sais pas si je m'exprime.
Oui, bien, dans le fond, on fait en sorte qu'ils développent de plus en plus de capacités au fil des ans, selon leur âge aussi, et on essaie de composer avec les incapacités, mais leur faire faire des apprentissages pour qu'ils aient moins d'incapacités.
Quand vous intervenez auprès d'un enfant, ça peut représenter concrètement une intervention à tous les jours, à toutes les semaines?
C'est souvent une intervention à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines. Habituellement, c'est souvent à toutes les semaines.
Et les gens vont vous rendre visite ou encore vous vous déplacez dans les milieux?
C'est les deux. Des fois, il y a des gens qui, quand ils sont plus vieux, ils vont venir me rendre visite à l'Institut. Mais quand ils sont plus jeunes, je vais me déplacer dans les milieux de garde, je vais me déplacer dans les familles, je vais me déplacer dans les écoles également. Donc, les plus vieux vont pratiquement presque toujours venir me voir à l'Institut.
Le type d'intervention que vous faites, est-ce que vous êtes en mesure de dire, bien, généralement, mon intervention porte sur...
Et c'est très varié.
Très varié, oui.
Oui, mais généralement, je dirais que ça porte sur les habiletés parentales, je dirais plus, et les habiletés sociales des enfants également. Et toutes les compétences de pré-employabilité chez les plus vieux. Donc, pour développer leurs compétences, ce qu'on appelle les compétences génériques.
Et parents, on n'apprend pas ça dans les livres.
Non.
Donc, j'imagine que vous donnez de bons conseils aux parents pour pouvoir les aider à développer leurs enfants aussi, compte tenu de leurs conditions particulières.
Oui, exactement. J'essaie, en tout cas.
Parlez-moi du sensorium.
Le sensorium?
Oui, le sensorium. Vous pouvez nous décrire qu'est-ce que c'est?
C'est un local de stimulation.
Un local à l'Institut.
Oui.
Qu'est-ce que ça fait, le sensorium?
Bien, c'est un local de stimulation visuelle qui est beaucoup utilisé par les spécialistes de réadaptation en déficience visuelle et les ergothérapeutes. Donc, eux seraient plus à même de vous expliquer le fonctionnement, mais c'est un beau local de stimulation.
Et est-ce que vous avez... qu'est-ce que ça fait, le sensorium, dans le fond? Ça stimule les enfants, ça stimule l'image. Qu'est-ce que ça fait
ça
exactement?
Ça stimule la vision.
Ça stimule la vision.
Oui, pour développer le maximum de leur vision, pour qu'ils utilisent le plus possible leur résidu visuel quand ils en ont un, évidemment. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment pour leur apprendre à l'utiliser au maximum le résidu visuel.
Je parle du sensorium, Diane, parce que la majorité des éléments qui se retrouvent à l'intérieur de ce local particulier a été fourni par la Fondation En Vue. Et c'est un système un petit peu particulier. Alors, on pourra peut-être éventuellement recevoir quelqu'un de votre secteur qui va venir nous expliquer, parce qu'il y a toutes sortes d'objets, il y a énormément de couleurs. On utilise des écrans aussi pour stimuler. Et parfois, les parents sont à l'arrière d'une vitre sans teint,
oui.
Voilà. Et pourquoi on fait ça? Pour que l'enfant se concentre complètement à ses exercices?
Oui, c'est ça. Puis le parent, comme il est derrière une vitre sans teint, il peut observer, mais ne pas nuire à la réadaptation. Mais il est à même de voir qu'est-ce qui se passe, qu'il peut voir le développement de son enfant.
Madame Thibault, pourquoi avoir choisi cet emploi en particulier?
Avant, j'étais avec une clientèle plus qui présentait des troubles de comportement. Et puis, après une vingtaine d'années avec cette clientèle, j'avais le goût de voir autre chose. Et j'ai pensé à la déficience physique et puis l'opportunité d'un emploi à l'Institut Nazareth et Louis Braille s'est présentée. Alors, j'en ai entendu parler. J'ai posé ma candidature, puis j'ai passé les entrevues et j'ai été sélectionnée. Donc, j'ai fait un virage, disons, dans ma carrière.
Qu'est-ce qui a été pour vous l'adaptation? Parce que là, vous arrivez d'un milieu où est-ce que vous êtes en plus des troubles de comportement, des difficultés de comportement, et là, vous arrivez tout à coup, on est dans un autre univers complètement. Donc, votre adaptation à vous, qu'est-ce qui a été nécessaire ou ça a représenté quoi comme adaptation?
Bien, j'ai eu une bonne période là, où j'ai dû... J'avais l'impression au tout départ que les enfants n'avaient pas vraiment de problème parce qu'il n'y avait pas de problème de comportement nécessairement. Mais j'ai vu les... Au fur et à mesure, j'ai découvert les incapacités et sur quoi j'avais à travailler avec les enfants. Donc, entre autres, les habiletés sociales des enfants, les habiletés parentales. Donc, on a tout développé au fur et à mesure le travail d'une psychoéducatrice sur les capacités adaptatives des gens.
Comment on fait ça? Vous avez un enfant... Ben, l'adaptation sociale, c'est un bien grand mot, mais concrètement, de quelle façon vous travaillez ça avec un enfant?
Bien, comme par exemple, pour se faire des amis, je vais aller l'observer sur la cour d'école, comment il fait.
Ah oui?
Oui, et je vais aller voir, je vais en parler avec les enseignants, avec les... Des fois, ils ont des éducateurs spécialisés, avec les éducateurs spécialisés. Et là, par la suite, je vais donner des conseils aux éducateurs pour qu'ils, et les, aux enseignants pour qu'ils, et aux jeunes pour qu'ils puissent essayer des choses. Puis par la suite, ils essaient des choses et on revient. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment on peut le faire différent la prochaine fois? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Donc, c'est un petit peu ça. Puis je revois aussi avec les gens, parce qu'évidemment, je travaille avec des partenaires, donc de faire en sorte que les gens autour du jeune puissent faire des choses au quotidien, parce que moi, je ne suis pas là au quotidien. Donc, eux qui l'accompagnent quotidiennement, comment ils peuvent l'aider à ce niveau-là?
Et il y a une grande différence entre les jeunes enfants, bien sûr, et les adolescents, j'imagine.
Tout à fait.
Parce qu'on en a déjà parlé dans une autre émission. Il y a des étapes de vie. Donc, vous devez adapter vos interventions en regard de ces étapes de vie-là.
Oui, évidemment.
Parce que les problèmes sont différents.
Oui, les tout-petits, c'est différent. Je vais travailler plus avec des partenaires du milieu de garde, mm-hmm, et les parents beaucoup. Au niveau primaire, je travaille beaucoup avec l'école et les parents. Niveau secondaire, les parents sont encore impliqués. Et là, on va travailler aussi avec l'école et différents partenaires. Des fois, il y a d'autres partenaires de d'autres centres de réadaptation qui se greffent également. Et plus tard, il y a le monde du travail aussi, des fois.
À l'adolescence, c'est déjà une problématique, toute la construction d'identité, en plus d'avoir une déficience visuelle. Donc, j'imagine que là, votre ancien milieu doit vous aider aussi énormément à faire le transfert de vos propres compétences dans cet univers-là, j'imagine.
Oui, je me rends compte que c'est des jeunes comme d'autres jeunes. Ils ont une déficience visuelle, mais à la base, ce sont des jeunes comme d'autres jeunes. Donc ça, c'est oui, mais mes expériences antérieures m'aident également à ce niveau-là.
Cette proximité que vous avez, ça doit créer des liens, ça doit tisser des liens.
Oui, ça tisse des liens.
Je me demandais comment vous faites pour vous dégager un peu de ça, mais ça doit tisser des liens très serrés, avec, autant avec la famille qu'avec l'environnement, les professeurs et tout ça.
Oui, des fois, c'est difficile de cesser les interventions parce qu'on s'est attaché, les tout-petits, les ados, les n'importe quoi, on s'attache et on s'attache à la famille. Mais à un moment donné, quand tout va mieux, alors là, c'est intéressant de les laisser voler de leurs propres ailes et on réussit. Ben je me dis, ce que j'ai fait, je les ai aidés, puis là, je suis contente de voir où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, c'est comme ça que je réussis à me dégager.
Vous êtes une espèce d'ange gardien.
Avez-vous déjà reçu des témoignages qui vous ont particulièrement touché?
Oui, j'ai des fois, par le programme Vision Carrière, on a des beaux témoignages de la part des parents. C'est un projet qu'on a à l'Institut, donc, dont je fais partie. Et puis, on reçoit des beaux témoignages de la part de parents ou des fois des courriels que les parents nous envoient pour nous remercier ou des mots pour nous dire un gros merci. Vous nous avez aidés, vous nous avez soutenus, on est contents. Et des fois, des jeunes aussi qui me remercient. Donc, c'est très valorisant.
Comme quoi, par exemple, en termes de témoignages?
Je
vous pose la question parce que à Vision Carrière, il y a eu une activité et il y a une maman qui me disait que le stage que son fils a fait a permis à son fils de sortir de sa solitude, de sortir de son sous-sol et de maintenant il prend le métro et c'est son stage qui lui a donné confiance et tout ça. Et la maman était extrêmement heureuse de ça. Ça a changé vraiment la vie de son fils.
Oui, on en a un autre aussi comme ça, qui restait toujours chez lui, qui sortait jamais. Maintenant, il prend le métro, il va voir des amis, il sort. Et le stage qu'il y avait l'année passée, il se peut qu'il y ait un emploi même d'été, cet été. Donc, des expériences comme ça, c'est très valorisant, c'est très nourrissant. Et je me dis, c'est pour ça que je fais le travail que je fais.
Bien, on vous souhaite de travailler encore longtemps à l'Institut Nazareth et Louis Braille et de demeurer l'ange gardien de plusieurs de vos usagers, autant les petits que les plus grands. On fait une petite pause et on est de retour tout de suite après avec notre marraine, Pauline Martin. Point de vue. Bonjour, Madame Martin.
Monsieur Poulain, bonjour.
Notre chronique d'aujourd'hui va porter encore une fois cette semaine sur le déménagement, parce qu'on est en plein dans cette période. Mais on va parler maintenant de l'intérieur. La semaine dernière, on a parlé de l'extérieur. Là, aujourd'hui, on parle de l'intérieur, les choses qu'on doit vérifier, qu'on doit faire.
Oui, et qui sont évidemment aussi importantes. On essaie d'éviter les appartements où il n'y a pas d'ascenseur. Ça simplifie un peu les choses. Parce que, tu sais, s'il y a des escaliers, on ne sait pas, peut-être que le concierge, d'ailleurs, en passant, c'est vraiment une bonne idée d'informer la personne qui fait l'entretien de l'immeuble de votre condition. Parce que si vous entrez, la personne vous aperçoit, puis il y a un seau, là, elle est en train de nettoyer. Si elle vous connaît, elle va dire « Attention, je suis en train de faire telle tâche et il pourrait y avoir des choses dans votre chemin. » Alors ça, il ne faut pas se gêner non plus pour l'expliquer. Dans un monde idéal, un ascenseur, s'il n'y en a pas, on va toujours finir par se débrouiller, on va trouver nos repères. Mais un ascenseur adapté.
Exact. Et maintenant, avec les lois du bâtiment, c'est obligatoire pour les nouvelles constructions. Il y a le braille, vous allez avoir les chiffres sont plus gros. Alors ça, c'est déjà adapté, c'est déjà dans la loi.
OK.
Alors, ça peut aider beaucoup.
Puis avec aussi les indicateurs vocaux.
Exact.
Mais si on n'a pas ça, on peut se charger soi-même de faire avec quelqu'un. Ça peut être l'ergothérapeute de notre institut. Si vous avez droit au service de l'institut, tout ça peut être fait avec nos spécialistes.
Et s'il n'y a pas d'indication, Pauline, j'ai déjà vu dans un édifice à Montréal, la personne se rendait, c'est l'édifice de Ami Télé, les gens qui vont à Ami Télé. Tu sais que les personnes savent qu'ils sont rendu sur l'étage d'Amitélé, il y a un feutre de collé sur le cadre de la porte de l'ascenseur.
Oui.
Alors, à ce moment-là, la personne non-voyante touche le cadre et sait qu'elle est maintenant à l'étage d'Amitélé.
Alors, ça, c'est pas...
C'est un petit truc.
C'est un petit truc très facile à installer. Ça aussi, ce qui est intéressant, bon, on a parlé beaucoup d'éclairage, on va en parler encore. L'éclairage est suffisant pour les personnes qui sont en basse vision. Ça va vous aider tellement à faire avoir des bons repères. Alors, c'est un avantage dans votre propre appartement aussi que votre éclairage soit en fonction de votre condition. Et ça aussi, nos spécialistes peuvent le faire. Et sinon, si vous êtes pas tout à fait encore admissible au service de l'INLB, sur le site de l'INLB, il y a énormément de conseils qui sont donnés.
Oui.
Alors, soit un membre de votre famille, un ami, allez vérifier comment ils peuvent adapter encore mieux pour vous faciliter la vie.
Parce que la luminosité naturelle peut être un problème pour certaines personnes.
Oui.
Et si vous déménagez, ben le soleil arrive de quel côté, tout ça, c'est des changements, là.
Oui, puis aujourd'hui, quand on va, même si vous allez faire un petit peu de pré-magasinage aussi, c'est encore une fois, moi, je pense toujours aux personnes admissibles, oui, vous aurez les services, mais si vous n'êtes pas tout à fait admissible, vous avez quand même besoin d'aide, bien, si vous allez chez un marchand, un distributeur, puis qu'ils vous expliquent la problématique que vous avez, c'est leur spécialité. Ils vont pouvoir vous aider. Alors, on a aussi la boîte aux lettres accessible, puis viens bien vérifier, parce que on sait que dans certains immeubles, il y a des gens qui rangent leur bicyclette près de la boîte aux lettres. Ça, juste vérifier que c'est toujours bien dégagé, cet endroit-là. Il faut que ce soit facile d'accès. On parle aussi, à l'intérieur de l'appartement, on l'avait mentionné déjà, mais c'est bon, vu qu'on va déménager, de faire des contrastes avec les couleurs. Ça va tellement vous aider. Si vos murs sont d'une teinte et que vos cadres de porte sont d'une autre teinte, ça aussi va vous aider énormément à vous repérer dans l'espace. On a parlé aussi des tapis.
Fixer
c'est tellement important, les tapis bien fixés. Tu sais, puis faites pas, on va le faire la semaine prochaine. Ça peut être trop tard la semaine prochaine.
Et dans la préparation de notre chronique, Pauline, vous avez parlé des meubles vis-à-vis les prises de courant.
Oui, ben, oui, ça a l'air nono, mais on passera peut-être pas nécessairement à ça la journée du déménagement. Mais là, tout le monde place les meubles. Mon Dieu, que c'est beau! Puis là, à un moment donné, tu veux brancher un petit quelque chose, puis tu fais, il n'y a pas de prise de courant. Ben si vous, la personne qui vous accompagne, si vous-même n'êtes pas capable tout à fait de les repérer, demandez aux gens qui sont avec vous de dire, si vous bloquez une prise de courant, pouvez-vous, ça s'achète tellement facilement, là, avoir un truc que tu mets dans la prise de courant et qui fait courir un fil auquel tu vas avoir accès.
Et en terminant, il nous reste à peine une minute, Pauline, les fils. Quand on fait installer le téléphone fixe, par exemple.
Quand vos services viennent à la maison, qu'il s'agisse du téléphone, de la télévision et tout ça, posez toutes les questions que vous avez à poser. Ils sont là pour ça. Et assurez-vous, lorsqu'ils partiront, qu'ils n'ont rien laissé dans votre chemin ou sur votre chemin. Les fils doivent être bien placés. Et voilà. Puis il ne faut pas se gêner pour le demander. Ça va leur faire plaisir de le faire.
Merci, Pauline.
Ben, ça me fait plaisir.
De retour avec nos invités à l'émission Point de vue sur Canal M, avec nos invités Kader Diaby et Mme Marie-Hélène Normandeau que nous avons en ligne. Bonjour Mme Normandeau.
Bonjour à vous.
Merci de prendre le temps de nous parler dans le cadre de notre émission. Parlez-nous un petit peu de cette formidable idée de vision carrière.
Oui, en fait, vous avez raison, c'est vraiment un projet formidable. L'idée de base, c'est vraiment de permettre à des adolescents et des jeunes adultes pleins de potentiel qui vivent évidemment avec une déficience visuelle de vivre des expériences de stage en milieu professionnel puis de les accompagner dans cette exploration professionnelle. Et en fait, les deux, c'est très heureux à la fois du côté des organisations et du côté des participants parce que pour les organisations, entre autres, c'est une excellente façon de valider leur politique d'intégration puis de voir justement le potentiel fantastique en termes de main-d'œuvre des personnes qui vivent avec une déficience visuelle.
Madame Normando, offrir des opportunités aux personnes qui ont cette déficience visuelle, c'est tout un défi. Donc, comment votre équipe vit cette expérience à Montréal Relève?
En fait, ce qu'on a trouvé de plus extraordinaire, c'est que les organisations qui sont partenaires de Montréal Relève ont eu une très grande ouverture à accueillir les gens qui sont en déficience visuelle. Je pense que la personnalité pétillante des participants, leur volonté, leur belle qualité personnelle aussi, c'est ce qui prend toute la place. Et les organisations se sont rapidement rendues compte aussi avec l'appui de l'Institut Nazareth et Louis Braille là, qui jouent un rôle super important pour leur intégration qu'avec un minimum d'adaptation, les gens avec une déficience visuelle, c'était tout à fait de la main-d'œuvre comme vous et moi, pleine de potentiel avec des études très extraordinaires, de belles personnalités aussi. En fait, ça prenait pas plus d'organisation de leur part pour les intégrer et les accueillir au sein de leurs entreprises. Donc, la réponse a été super favorable et continue de l'être.
Au niveau de vision carrière, ça provient de Montréal Relève. Parlez-nous de Montréal Relève. Qu'est-ce que c'est exactement et ça vient d'où, ça, Montréal Relève?
Oui, Montréal Relève, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1995 et qui est une filiale de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Et notre autre entité fondatrice, c'est la Ville de Montréal. Donc, ce qui est intéressant dans le cadre de vision carrière, c'est que par la position privilégiée qu'on occupe, avec ces deux entités fondatrices-là, on peut mettre au service des participants, un réseau formidable d'entreprises et d'organisations aptes à les accueillir. Donc, notre OBNL est très dédié à tout ce qui touche le développement socio-économique dans la grande région du Montréal métropolitain et à une meilleure intégration ou une intégration la plus réussie possible de toute la main-d'œuvre disponible sur le territoire du Québec.
Oui, je pense que l'intégration en milieu de travail est un élément important pour la Chambre de commerce de Montréal.
Certainement, et je pense que c'est vraiment l'avenir aussi. On n'a ni le luxe, ni l'envie, je pense, de se passer de main-d'œuvre au Québec, à Montréal comme partout ailleurs, dans la grande région du Montréal métropolitain. Et je crois qu'en mettant comme ça en lien des stagiaires, parce qu'évidemment, le programme Vision Carrière permet un stage d'intégration, puis aussi de reconnaissance et de connaissance des belles qualités des participants. On permet comme ça d'élargir le bassin de main-d'œuvre potentiel et les organisations répondent très favorablement à ce genre d'initiative-là parce que c'est un enjeu important au Québec, justement, de s'assurer qu'il y aura une main-d'œuvre qualifiée dans tous les secteurs de formation. Et en fait, ce qui est super extraordinaire depuis qu'on s'intéresse à ce projet-là et qu'on a appris aussi beaucoup dans notre collaboration avec la Fondation En Vue et l'Institut Nazareth et Louis Braille, c'est qu'il y a énormément de possibilités pour les gens qui sont en déficience visuelle en termes de profession et de métier. Les stages des dernières éditions, d'ailleurs, le démontrent parce qu'il n'y a pas grand secteur, finalement, qui échappe aux gens en déficience visuelle. Comme je vous dis, il suffit d'un minimum d'adaptation, puis on peut se permettre de rêver, puis on peut se permettre d'avoir de très belles aspirations professionnelles aussi.
Madame Normando, le programme est déjà bien en selle et vous le mentionnez très bien. Comment vous voyez le futur de Vision Carrière?
Nous, c'est sûr que le conseil d'administration de Montréal Relève et moi, comme directrice générale, je le vois vraiment grandir parce que c'est sûr que pour le moment, nos cohortes sont super intéressantes. Les résultats sont extraordinaires. Je pense que la conséquence aussi directe des stages d'exploration de carrière, c'est vraiment de meilleurs choix carriérologiques aussi pour les participants. Et comme je vous expliquais, une première mise en commun aussi avec les organisations, un premier contact réussi avec des gens avec une déficience visuelle. Alors, si je me permets de le rêver, si je me permets de penser que, par exemple, un gouvernement pourrait s'intéresser à ce type d'initiative-là, que ce soit du côté d'un ministère du Travail, de l'Emploi, d'une meilleure intégration, de l'éducation, moi, je le vois grandir de façon quand même très favorable là, dans les prochaines années. je pense que nous, de notre côté, on aurait aussi la capacité et le souhait de le voir se développer plus grandement, bien qu'on a à cœur de garder toujours un encadrement et un suivi très personnalisé auprès des participants. Ça, je pense que ça a toujours été d'une importance capitale pour Montréal Relève et tous les participants, je pense, pourront en témoigner, qu'on essaie d'accorder à chacun d'entre eux là, un soin très particulier pour que l'expérience soit très qualifiante puis très formatrice pour l'ensemble des parties impliquées.
Selon les informations que vous avez auprès de votre personnel, est-ce que l'accueil est chaleureux auprès des entreprises ou s'il y a encore du travail à faire?
Je vous dirais que l'accueil est très chaleureux. Alors, on était ravis de la chose parce que on l'a testé un peu avec nos entreprises aussi en se disant, bien, on va voir au niveau de leur... en fait, c'était plutôt pénétration aussi qu'on voulait vérifier de leur côté. Et je peux vous dire que nous, c'est sûr que ce qu'on valorise beaucoup, ce qu'on met beaucoup de l'avant, c'est la personnalité des participants, c'est leur domaine d'études, c'est l'intérêt qu'ils ont manifesté pour tel ou tel secteur. Et par la suite, nous parlons en toute candeur et en toute honnêteté aussi de la déficience visuelle du participant pour que l'organisation, elle se sente bien encadrée et qu'elle se sente bien appuyée par l'Institut Nazareth et Louis Braille et par Montréal Relève. Alors, l'accueil est extrêmement favorable. Je peux vous dire que pour le moment, le taux de réponse est très positif et est très grand. Donc, ça nous permet de penser que c'est quelque chose qui pourrait se développer là, de façon beaucoup plus grande que ce que c'est actuellement. Si nos partenaires continuent d'y croire avec nous, puis si on continue à par exemple, chercher d'autres partenaires à asseoir autour de ce beau projet-là là, pour le voir grandir.
Madame Normandeau, vous demeurez avec nous. On a Kader avec nous qui a vécu une expérience extraordinaire au niveau d'une firme d'ingénieurs. Et Kader nous a apporté une pièce musicale. Comme il vient de la Côte d'Ivoire, on peut s'attendre à quelque chose de bien particulier.
On ne sait pas.
Alors Kader, qu'est-ce que vous nous avez apporté comme pièce musicale?
Ben, je vous ai apporté, c'est une musique un peu particulière, qui est un peu multiculturelle, de deux jeunes chanteuses cubaines, vénézuéliennes, quelque chose comme ça.
Ah oui, et pourquoi cette pièce en particulier? À cause des cubaines ou à cause de la musique?
non, pas vraiment. Non, en fait, je pense que dans cette musique-là, il y a beaucoup d'instruments nouveaux qui sont pas populaires, fait.
D'accord.
Donc, et puis il y a des paroles, des langues. C'est un peu un mix de tout ça qui fait que ça rend cette musique-là beaucoup plus particulière que je voulais faire partager avec.
Alors, on va découvrir ça en même temps que vous, chers auditeurs. On y va.
Carry away my old leaves, let me baptize my soul. wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul again.
De retour à l'émission Point de vue sur Canal M, Diane, nous avons toutes sortes de surprises à l'émission Point de vue grâce à nos invités qui nous font découvrir. Alors, Kadir, tu nous as fait découvrir une formidable musique et je pense que Mme Normando, vous avez apprécié aussi, même si vous êtes au téléphone.
Oui, j'ai trouvé que ça a mis un petit peu de soleil dans ce printemps qui ne cesse de se faire désirer. Donc, très bon choix musical.
Oui,
merci. Alors, demeurez avec nous, Mme Normando. Je vous reviens dans, on va vous revenir dans quelques secondes.
Michel, excellent. Vous avez mentionné tout à l'heure que Kader venait de Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes arrivé ici. Vous aviez quel âge, Kader?
J'avais 20 ans.
20 ans?
20 ans, oui.
OK. Et votre déficience visuelle, est-ce qu'elle est de naissance?
Non, elle n'est pas de naissance. Hein. Elle a commencé lorsque j'avais 16 ans. Et c'est dû probablement à la prise d'un médicament qui a des effets secondaires. Donc,
OK. Alors, ça a été quand même un choc, une adaptation?
Mais, je ne dirais pas vraiment un choc, mais je dirais plus que... en général, en Afrique, quand on a un problème, on les prend comme ils viennent. Et puis, on essaye de passer par-dessus. Donc... ma déficience est venue progressivement une année. Donc, au début, on pensait que c'était quelque chose d'assez minime parce que peut-être que j'avais juste besoin de lunettes ou de petites corrections, mais au fil des mois, au fil des années, ça s'est stabilisé, mais ça s'est aggravé et puis ça s'est stabilisé. Et puis, bon, on nous a dit que c'était pas possible de corriger ça maintenant.
Et à partir du moment où vous savez que c'est pas possible de corriger ça, comment vous l'avez abordé? Comment vous avez traversé cet obstacle?
Bon, je dirais que moi, personnellement, j'avais toujours espoir que qu'on puisse trouver une solution dans le futur. Donc, c'est un peu ça. C'est avec cet espoir que je vis, entre guillemets. Mais moi, à titre personnel, c'était pas, je l'ai pas poussé pas vraiment mal ni trop bien. Je trouve que je suis quand même assez chanceux d'avoir une vue partielle quand même. Il y a d'autres, il y a des gens qui ont des situations beaucoup plus pires que moi, donc... je l'ai pris avec beaucoup plus de sérénité. Mm-hmm. Puis,
Comme vous prenez le reste des expériences, d'ailleurs, j'ai remarqué.
Donc, l'avenir est intéressant. L'avenir vous sourit. Les stages s'en viennent. Vous allez terminer dans une année et demie, à peu près,
oui.
Votre cours au niveau d'ingénieur. Êtes-vous fier du parcours que vous avez fait?
Ah oui, je suis très fier. Je suis très fier parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de patience aussi. Parce que c'est pas évident de suivre le rythme et de s'accrocher, quoi.
Et vous avez, j'imagine, des gens autour de vous qui vous ont aidé et qui vous aident encore à poursuivre?
Oui, 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 il y a pas mal de gens. Il y a ma famille aussi. Donc, et puis, il y a des personnes aussi à Polytechnique qui m'aident aussi.
Vous êtes bien entourée.
Oui.
On va revenir à vous, Mme Normando. On voudrait parler un peu de l'accès au travail, justement, des personnes en déficience visuelle. C'est un grand défi. Le programme Vision Carrière fait et va faire une différence, selon vous?
Je suis persuadée que oui, parce que, comme je vous expliquais, ce qui est super intéressant dans cette première prise de contact-là, souvent avec quelqu'un qui est en déficience visuelle pour les milieux de travail, c'est que ça leur permet de se rendre compte assez rapidement que, somme toute, c'est quelque chose de tout à fait réaliste, faisable, et la personnalité des participants, que ceci soit adolescent ou adulte, Kader, là, on est l'exemple typique, parfait. La personnalité fait 99% du travail travaille vraiment. En ce sens que parce que vision carrière est une mesure volontaire, parce que les gens qui participent ont envie d'être là aussi, démontrent beaucoup d'intérêt pour le secteur qui est découvert. Somme toute, je pense qu'en termes d'intégration au travail, on a là une formule qui fonctionne super bien. Ce qui est d'autant plus intéressant pour nos participants, je pense que les intérêts de ceux-ci sont très diversifiés, puis tous les secteurs répondent de très bien. Les stages peuvent être en technologie de l'information, peuvent être en travail social, en génie comme cadre, mais aussi en massothérapie, mode, commerce de détail. Du côté de nos adultes, beaucoup d'intérêt pour les ressources humaines. C'est un secteur qui répond très bien. En kiné aussi, aménagement des usagers, aérospatial, tout ça. Donc, en tant que tel, il n'y a pas vraiment de barrières si on prend le temps avec les partenaires là, des entreprises, entre autres, de s'asseoir et de voir ce qui est envisageable et ce qui est possible. Oui, je pense que c'est une formule qui est tout à fait heureuse et pour les organisations et pour les gens qui y participent, et certainement une façon d'être bien introduit au milieu professionnel puis d'aller chercher un premier réseau de contact. C'est sûr que ça travaille aussi beaucoup. Les parents des participants nous le disent, tout le volet d'autonomie, tout le volet aussi d'avoir quelque chose sur le curriculum vitae d'intéressant qui va permettre aussi à un futur employeur de s'attarder un petit peu plus longtemps justement sur le curriculum vitae que pour une autre personne qui, par exemple, n'a pas d'expérience de stage. Donc, un plus-value là, auquel je crois qu'on croit beaucoup puis qui va continuer à se développer là.
Madame Hélène Normando, ça peut représenter combien de stages par année que vous offrez?
Pour le moment, environ, je vous dirais une dizaine, 10 à 15 stages pour les 10 à 15 participants qui nous sont recommandés par l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et pour chacun d'entre eux, une approche qui est très personnalisée, à la fois au niveau du secteur géographique pour l'entreprise ou l'organisation qui va les accueillir. Il peut s'agir aussi d'une municipalité, il peut s'agir, c'est très vaste là, au niveau des organisations, des OBNL aussi qui participent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas seulement l'entreprise privée, mais l'ensemble des organisations. Donc, on tient compte de la géographie, on tient compte aussi beaucoup du souhait carriérologique ou de l'exploration de carrière qui est désirée, parce que surtout pour les adultes qui sont participants, eux, leur vision carriérologique est davantage cristallisée que les adolescents. Donc, c'est vraiment une approche qui va cibler ces deux aspects-là pour être sûr que tout le monde est en bonne zone de confort et que le stage demeure quelque chose qui est réalisable et réaliste aussi là, en termes de déplacement, etc. Donc, pour le moment, c'est à peu près la vitesse de croisière du projet, puis on est très contente de son développement. Et on a ajouté un volet adulte aussi depuis quelques temps qui fonctionne très bien. Puis les adultes aussi, je pense que le stage est une valeur très ajoutée dans leur cursus scolaire là, puis pour leur intégration.
Madame Normando, vous nous parlez de votre organisme avec énormément de passion. Une question me brûle les lèvres. Qu'est-ce qui vous anime à tous les jours dans ce projet?
Écoutez, c'est un des projets là, les plus magnifiques que Montréal Relève a propulsé là, avec un partenaire les dernières années. C'est sûr qu'il y a un volet où on sent, et j'espère que je ne me trompe pas en disant ça, qu'on fait une réelle différence dans la vie des gens qui participent, et non seulement des participants qui ont des déficiences visuelles, mais auprès des organisations qui les accueillent, parce qu'il y a là des coups de cœur vraiment extraordinaire. C'est un projet qui, à la fois, allie un besoin de main-d'œuvre. Donc, il y a tout cet aspect-là qui nous anime et qui nous passionne beaucoup, mais il y a aussi un volet humain qui est extrêmement, je pense, touchant quand on voit que les gens s'épanouissent, que les gens sont enfin connectés à des réseaux, que les gens développent de l'autonomie, que des gens apprennent à se faire plus confiance aussi. Et les participants, je pense que c'est une porte pour bien s'épanouir aussi un stage. Peu importe là, que le participant ait une déficience ou non, on se rend compte que dans l'entièreté de nos programmes, le contact humain, les échanges humains qui sont faits dans les stages, c'est super précieux. Puis je pense que moi, c'est ce qui fait que depuis des années, je suis justement très passionnée de ce qu'on fait, mes visions, car à cette différence-là. Donc, et les participants, vous en avez un avec vous présentement. Écoutez, c'est des participants qui ont une personnalité tellement extraordinaire que c'est un vrai bonheur de travailler avec eux et pour eux.
Madame Normando, il nous reste à peine 30 secondes. S'il y a des entreprises qui nous écoutent et qui souhaiteraient participer, on a une adresse Internet?
Oui, le www.montrealrelève.ca, et ça nous ferait vraiment plaisir d'accompagner les entreprises pour accueillir des participants. On est là pour ça, puis on serait très ouverts. Téléphone, courriel, vous êtes les bienvenus.
Madame Marie-Hélène Normandeau, directrice générale de Montréal Relève, merci infiniment d'avoir été à notre micro dans le cadre de cette émission. Merci à Kader Diaby. Bonne chance dans tous vos beaux projets. Alors, c'est déjà tout pour notre émission. Ça passe très rapidement. Donc, c'est déjà tout pour Point de vue proposé par la Fondation En vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Nous serons de retour la semaine prochaine avec d'autres invités, dont notre marraine Pauline Martin et un membre du personnel de l'Institut Nazareth et Louis Braille. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur fondationenvue.org. Ici Michel Poulin.
Diane Felice.
Bonne semaine, mesdames, messieurs.
Point de vue est présenté par la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille en collaboration avec Canal M.